Jean Morellon, quelle est l'histoire qui vous lie à l'Europe?
C'est une histoire ancienne qui a commencé il y a maintenant 15 ans, d'abord à la Grande Motte, où des amis, après une petite période où nous avons fait un groupe informel où parlions de tout et de rien, et quelqu'un est venu, invité par nous, de la Commission européenne, et qui nous a parlé de l'Europe, et qui nous a dit, mais pourquoi ne fondez-vous pas carrément une association, loi de 1901, qui aurait pour thème et pour but de parler de l'Europe et de promouvoir l'idée européenne. Et c'est exactement ce que nous avons fait, après un an donc de petits conciliabules comme cela, c'est-à-dire il y a maintenant 16 ans en réalité. Et nous fonctionnions à la Grande Motte et nous réunissions à l'hôtel Mercure. Ça a duré donc et ça dure encore, mais sauf que depuis 3 ans, nous avons recentré un petit peu nos affaires sur Moguio-Carnon et plus spécialement à l'hôtel de l'aéroport où nous réunissons tous les mois. Tous les mois, le deuxième lundi de chaque mois. Et je vous le dis encore et je répète, ça fait 16 ans que ça dure.
Avec... Il s'agit bien du cercle européen. Il s'agit bien du cercle européen de Palavas, Moguio-Carnon. Non, pas du tout. Allez-y.
Le cercle européen, ce n'est pas seulement Palavas, Moguio-Carnon. C'est justement, si nous sommes recentrés sur l'hôtel de l'aéroport, c'est parce que c'est un peu au centre de l'origine géographique de tous toutes nos personnes qui viennent tous les mois donc assister à nos séances, c'est-à-dire un dîner-débat, avec toujours un thème plus ou moins en rapport avec l'Europe. Mais toujours, on se raccroche quand même toujours à l'Europe, même si nous traitons, par exemple, des chiites, des sunnites, qui pour l'instant, et c'est exactement, nous intéressent aussi. Nous l'avons fait, et nous avons un programme donc très varié, très éclectique. Par exemple, je vous donne tout de suite les thèmes du prochain semestre, qui débutera donc au mois de janvier, encore une fois le deuxième lundi. Nous commencerons par l'Europe de la défense, mythe ou réalité, et l'OTAN, qu'est-ce que ça fait là-dedans? Enfin, ça, je le dis librement. Ensuite, nous avons Mossoul et après, parce que là, nous avons un chaudron qui va exploser. Ensuite, les métropoles et les mégapoles. Et donc, nous pensons bien sûr à la métropole de Montpellier. Ensuite, la tolérance et réciprocité face à l'islam, un problème important. Et nous avons là des intervenants de qualité. Et ensuite, fédérer l'Europe, oui, mais comment? Et ensuite, au mois de juin, alors là, c'est toujours, nous laissons ça un petit peu dans l'incertitude et le vague, en mettant à préciser, en fonction éventuellement de la présence d'un conférencier qui pourrait nous parler de quelque chose de plus particulier. Voilà, donc en ce qui concerne l'origine, avec des gens qui viennent encore une fois de, non seulement de Moguio-Carnon, la Palavas, la Grande Motte, etc., mais de beaucoup plus loin, puisqu'il y en a qui viennent de l'Odève, de Sète, donc de Gignac et de Lunel et de Lunel-Vielle, etc., etc. Donc vous voyez, très large, c'est-à-dire le grand, très grand Montpellier, en gros. Voilà, pour ce qui est du cercle européen. C'est une association qui n'a pas d'adhérents, puisque nous avons toujours refusé d'avoir des adhérents payant cotisation. Nous avons créé cela avec trois personnes, donc deux amis et moi. Et l'un, bien sûr, a disparu, malheureusement, il est mort, de façon donc tragique, puisque c'est un cancer assez fulgurant. Et donc, nous sommes toujours trois aux commandes, avec donc deux vice-présidents et moi-même. Mais nous avons donc des gens qui sont un noyau dur, et puis tous les ans viennent se greffer des invités des uns ou des autres. Et j'ai réduit un peu la voilure parce que nous étions trop nombreux et c'est difficile à porter. Donc aujourd'hui, nous sommes toujours entre 45 et 55. Voilà à peu près ce que nous voulons comme volume, parce que ça permet de mieux s'entendre, de mieux dialoguer, et quelquefois donc des gens nous apportent des choses intéressantes comme ça, librement, lorsque à la fin de l'exposé ou des exposés, nous posons la question.
Ce que vous êtes en train de dire, intégrer ce cercle, ça c'est une par cooptation?
Oui, tout à fait. Les gens nous connaissent, des gens souvent me disent « Est-ce que je pourrais amener un ou deux amis ou des amis qui souhaitent entendre parler un peu de l'Europe ?» Eh bien, nous leur disons « Mais volontiers, et je dirais même plus, même si des gens, et j'en ai qui viennent régulièrement, ne souhaitent pas voir l'Europe telle qu'elle est, eh bien, je leur dis « Mais venez, au contraire, vous nous direz ce que vous en pensez, et d'ailleurs, nous en pensons tous à peu près la même chose, et je le dirai un peu plus tout à l'heure, l'Europe, aujourd'hui, ne fonctionne plus et ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Et donc, il s'agit aujourd'hui de repenser complètement l'Europe.
Dans les thèmes que vous avez énoncés, je n'ai pas entendu parler du Brexit. Est-ce que c'est quelque chose maintenant de dépassé ?
Non, c'est parfaitement à l'ordre du jour. Ça vient même tout à fait en relation avec ce que nous allons traiter au cours de notre première séance, c'est-à-dire sur l'Europe de la défense. Car non seulement nous pensons qu'il faut en profiter, c'est une bonne occasion, et le Brexit, c'est pas encore fait, hein. Il y a 2 ans encore à venir où il va y avoir des tas de négociations, bien sûr, et où l'Angleterre, comme d'habitude, va tenter de tirer le maximum de l'Europe en lui donnant le minimum. Sauf que, aujourd'hui, en ce qui concerne la défense européenne, nous apercevons que l'Angleterre, avec la France, étaient quasiment les deux seuls pays à avoir une véritable armée importante susceptible d'être déployée à l'extérieur grâce à ses avions, ses porte-avions, etc. Quoi que nous n'en avons qu'un. Mais, donc, déploiement à l'extérieur, et c'est le gros problème aujourd'hui de la France et de l'Europe de la défense, c'est que depuis, justement, la chute du mur de Berlin, donc je reviens un peu en arrière, les pays de l'Est sont un peu affolés en disant « Oui, mais comment aller maintenant que nous sommes sortis, nous n'avons pas envie de voir la Russie, qui pour certains est vue comme un ogre expansionniste, mais qui apparemment n'a pas tellement envie d'aller trop loin hors de ses frontières naturelles d'aujourd'hui. » Eh bien, se sont dit « Mais la seule chose qui peut nous protéger, c'est l'OTAN. » Et donc l'OTAN, évidemment, et les Américains, bien sûr, derrière, sont accourus très très vite pour leur proposer la protection de l'OTAN. Ce qui a mis un petit coup d'arrêt au développement de l'Europe de la défense et donc de l'Union européenne et sa défense, car à partir de là, la France qui avait réintégré dans le même temps le commandement intégré de l'OTAN, donc a dit « mais finalement on peut s'appuyer aussi sur l'OTAN », c'était avant le développement des printemps arabes et de tout ce qu'on voit aujourd'hui, et du déploiement de l'armée française qui avait été réduite en matériel, en hommes, donc en moyens, et surtout en moyen de déploiement extérieur. Aujourd'hui, nous sommes présents, en plus, la France, sur 9 théâtres d'opérations extérieures, sans parler du plan Sentinelle en France, qui emploie 7000 personnels de l'armée, ce qui fait quand même beaucoup pour l'armée qui avait été réduite en budget, en effectifs, en matériel, qui sont vieillissants, et on s'en aperçoit tous les jours, parce que dans les théâtres d'opérations extérieures, eh bien, on ne peut plus tenir au rythme que nous avions entamé seul. Mais ça, c'est un peu de la responsabilité de nos gouvernants, si je puis dire, car on part en guerre comme ça sans prévenir personne de l'Union européenne, sans demander d'abord et sans concertation si on peut être aidé dans ce domaine par l'Union européenne en général ou des pays de l'Europe qui peuvent avoir un semblant de force ou de moyens. Ça a donc coupé court cette histoire de mur de Berlin, de chute, un peu à l'élan qui avait commencé à être apporté à cette idée de défense européenne. Et nous sommes maintenant au pied un peu du mur parce que nous manquons de moyens, nous manquons de personnel et donc nous sommes un peu seuls, encore une fois, et en plus avec ce problème des frontières de l'Europe et de Schengen, vous avez entendu parler, tous les candidats de droite ou de gauche se posent la question du Schengen, doit-on fermer les frontières, qu'est-ce qu'on peut faire, comment faire, et il faut en tout cas repenser profondément d'une part l'Europe et d'autre part Schengen, parce que les frontières, si on n'a pas un programme tout à fait élaboré au niveau de l'ensemble des... Alors 27, nous sommes 28, nous allons bientôt être 27, mais ça fait beaucoup. Alors évidemment, faire fonctionner, encore une fois, là je reviens sur le fonctionnement de l'Union européenne, faire fonctionner une Europe qui s'est bâtie trop vite au dernier moment, avec l'entrée de 8 à 10 États nouveaux, sans trop de réflexion, parce qu'il fallait aller vite, parce qu'il fallait courir derrière l'OTAN qui, elle, a les moyens d'aller très vite, eh bien, nous avons un petit peu effacé la discussion pour savoir comment fonctionner avec des règles pratiques, c'est-à-dire, en fait, beaucoup plus de majorité que d'unanimité. Avec 27 ou 28 pays, quand vous avez des pays qui ont moins d'un million d'habitants et d'autres qui en ont 50 ou 60, c'est effectivement très difficile, alors qu'on essaie de donner le même poids à chacun, de pouvoir s'entendre, car les intérêts ou les objectifs ne sont pas toujours forcément les mêmes. Et c'est ça le drame. Après, avoir créé une union à très peu de personnes, de membres, c'est-à-dire les États de charbon-acier à l'époque, où nous étions six. Et la volonté de Gaulle n'était pas de faire une Europe intégrée complètement, mais de faire une Europe économique limitée d'abord à un petit marché. C'est devenu après un grand marché. Nous avons ensuite créé l'euro, et dans la foulée, nos anciens avaient imaginé que avec l'euro, il fallait créer une gouvernance économique. Alors aujourd'hui, nous avons une gouvernance monétaire qui est un peu bloquée, d'ailleurs, dans son fonctionnement et dans ses modes d'action, mais donc qui n'a pas de véritable, l'Europe n'a pas de véritable gouvernance économique. Ceci étant, c'est un problème purement politique, car tous les chefs d'État se réunissent régulièrement autour donc, de la table à Bruxelles ou ailleurs, et pourraient très bien dire, ben voilà, il nous faut avancer. Mais malheureusement, je crois que chacun, avec son petit ego particulier, dit, ben moi, si je perds un peu de souveraineté ici, il ne va plus rien me rester. Ce sera un peu comme dans les régions maintenant, ou dans les métropoles, où on dit, faussement d'ailleurs, parce que ce n'est pas vrai, les mairies, il ne reste plus que l'état civil et les enterrements. Bon, c'est un petit peu réducteur. Et bien sûr, pour l'Europe, ce n'est pas du tout ça. Il y a quand même des compétences nationales qui restent, qui demeurent, qui sont très fortes. Il suffit de mesurer exactement et de dire jusqu'où va l'intégration. En tout cas, aujourd'hui, j'ai participé à diverses réunions où il a été question de cette concurrence entre pays européens. Et dans cette concurrence entre pays européens, on s'aperçoit que la fiscalité occupe une très grande part. Et donc, il faut une harmonisation fiscale et sociale aussi, parce que là aussi, il y a des disparités énormes. Alors, vous savez, récemment, on a parlé, il y a une députée européenne qui devait venir nous voir ce lundi dernier, qui n'est pas venue, et c'est regrettable, et c'est très dommageable pour elle aussi, parce qu'elle aurait pu venir nous voir, et donc elle n'est pas venue, elle savait deux fois qu'elle nous fait faux bond. Et donc, on devait parler de sa mission d'ailleurs qu'elle a sur les Panama Papers, vous savez, sur les paradis fiscaux, exotiques notamment. Alors, c'est bien joli, on nous parle toujours des paradis fiscaux et on les situe toujours dans les Bahamas ou ailleurs, mais n'oublions pas que les États-Unis eux-mêmes ont un État, pour ne pas le nommer le Delaware, où il y a une sorte de paradis fiscal, et que nous-mêmes, en Europe, nous en avons à nos portes, c'est Jersey, Guernesey, etc., et même Andorre, avec nos coprinces. Vous savez que dans Andorre, les coprinces, c'est d'abord notre président de la République automatiquement qui est coprince d'Andorre, avec un deuxième coprince qui est l'évêque de Céau des Urgelles. Alors, et Andorre, au point de vue secret fiscal et bancaire, il n'y a pas grand-chose à redire par rapport à la Suisse, et encore la Suisse s'est beaucoup améliorée, mais il en reste d'autres États où le secret bancaire est encore bien protégé en Europe. Quand on parle aussi de Luxembourg, on s'aperçoit aujourd'hui que le Luxembourg, eh bien, il y a quand même 170 banques installées au Luxembourg. Et c'est un État dans l'Europe qui pèse lourd de ce point de vue-là et qui n'a qu'une petite portion de territoire et qui a moins d'un million d'habitants. Donc, on peut se poser beaucoup de questions. Alors, on parle toujours de la Suisse, mais il suffit d'aller à Jersey et Guernesey, vous serez tranquille, tout à fait tranquille pour faire vos opérations. Alors, ce n'est pas la peine d'aller très loin. Donc, on parle beaucoup de l'Europe, bien sûr, mais personne ne veut regarder et aller vers un petit peu plus d'intégration. Et ce sera le sujet d'un autre thème. Fédérer l'Europe, oui, jusqu'à quel point et comment. Il ne s'agit pas d'abandonner toute souveraineté nationale, bien entendu. Hein, l'État, la France, ça reste la France. Et ce n'est pas parce que nous avons la France que les Bretons sont moins Bretons et que les Auvergnats sont moins Auvergnats qu'avant.
Vous trouvez que la France est suffisamment impliquée dans ces débats européens?
Mais la France, si vous voulez, n'a pas voulu ces derniers temps, et depuis très longtemps, prendre à bras le corps le problème de faire progresser l'Europe. Alors que des instances dirigeantes, l'avenir de l'Europe, on ne voit aujourd'hui aucun souffle, aucun vent nouveau qui souffle sur l'Europe. C'est un peu comme la France, d'ailleurs on n'a pas vraiment de vent nouveau. Et donc, pour ce qui est de l'Europe, il ne faut pas oublier qu'il y a des structures qui peuvent réunir et qui réunissent régulièrement, normalement, les chefs d'État, les chefs de gouvernement et même les ministres. Et que ce sont eux qui donnent les grandes orientations à la Commission européenne, chargée avec le Parlement ensuite d'élaborer les lois, les programmes, etc. Donc qui concernent soit l'état actuel de l'Europe, soit son désir d'avancer un peu plus. Or aujourd'hui, apparemment, il n'y a pas beaucoup d'États, et dont la France d'ailleurs, hein, qui souhaitent vraiment poser la question sur le tapis et dire nous allons avancer vers un peu plus d'intégration. Il ne s'agit pas de faire un État fédéral comme les États-Unis, encore que finalement ça ne fonctionne pas si mal, et que les États aux États-Unis, eh bien, ont quand même des gouverneurs avec des pouvoirs assez étendus et qui peuvent même imposer une fiscalité particulière par rapport à l'État fédéral. Ce n'est pas pour rien que BMW et autres se sont installés en Géorgie ou en Virginie, je ne sais plus précisément, mais en tout cas dans ces pays, parce que là-bas, ils ont une législation fiscale et sociale très, très indépendante et très particulière et favorable à une implantation comme celle que je viens de citer. Alors, en Europe, la France, effectivement, a beau avoir un ministre des Relations européennes, j'avoue qu'on ne l'entend que très peu, on ne sait pas trop ce qu'il fabrique, et on se demande même si c'est utile d'avoir encore un représentant ministre donc, des Affaires européennes, pour faire ce que l'on voit, c'est-à-dire rien, ou presque. En tout cas, on n'en sait rien parce que personne ne nous informe là-dessus. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez habituel de chez nos politiques. Certains s'y intéressent. J'en ai fait venir au Cercle européen, qui sont très aimables et qui viennent régulièrement. Et puis d'autres qui ne s'y intéressent pas du tout. Mais surtout, ce qui est toujours à la pointe de discussion et de proclamation, c'est que quand quelque chose va bien dans le secteur ou la circonscription électorale, c'est grâce à eux ou grâce au Parlement français. Mais quand ça va mal, c'est toujours, toujours la faute à l'Europe. Alors, je trouve que c'est un peu facile d'en arriver là, mais c'est une conclusion qui est souvent entendue, en tout cas. Donc, voilà, pour l'instant.
De qué amor que yo sé que volverás,
yo sé que volverás.
Inocente el amor,
inocente el amor,
de qué amor que yo tenía guardaba, de qué amor que yo tenía.
Parmi les décisions qui ont été prises récemment dans cette communauté européenne, laquelle serait la plus impactante, la plus importante pour la région Languedoc-Roussillon?
Alors ça, je ne vois pas très bien parce qu'effectivement... Alors vous avez un comité des régions, personne ne sait ce que c'est. Le comité des régions est un des premiers, ou le premier même président, a été Jacques Blanc à l'époque, qui a été président du comité des régions. Le comité des régions a un rôle consultatif, soit... de façon autonome, c'est-à-dire qu'il peut se saisir d'une question et proposer quelque chose à la Commission européenne et au Parlement européen, soit il est saisi, dans certains cas, obligatoirement à titre consultatif, encore une fois, hein, ça ne s'impose pas. Mais nous avons ici un représentant tout près de chez nous qui est membre donc du comité des régions, et je peux vous dire que je ne l'ai jamais entendu faire une réunion pour dire voilà ce que je fais, voilà ce qu'on dit, ce dont on parle et comment on travaille au comité des régions. Et c'est quelqu'un qui est situé plus précisément dans la circonscription dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire la 9e, et donc on ne l'entend jamais. Alors à quoi ça sert? Je me pose la question. Donc impacter une région, c'est bien, encore faut-il que nos représentants, que ce soit les députés européens, il m'est arrivé de dire un jour à un de nos députés européens du secteur, d'abord personne ne les connaît, quand est-ce que vous revenez nous voir après avoir été élu? Il m'a dit, mais je viendrai régulièrement vous voir, je rendrai compte, etc. C'est pas vrai, jamais, jamais, jamais. Et donc, un jour, il m'est arrivé de demander à un député qui se trouve du côté de Bayonne ou Biarritz, quand est-ce qu'il venait, il me l'avait promis à Nîmes le jour d'une réunion où j'étais allé. Et finalement, on m'a répondu par son cabinet, vous savez, Carnon, la Grande Motte, tout ça c'est loin, le député européen il a autre chose à faire que d'aller là-bas. Ah, j'ai bien retenu ça et je me suis dit que vraiment c'était du gâchis d'avoir des députés européens dans une région, ne jamais les voir. J'ai posé la question bien souvent au Cercle européen, puisque c'est le nom de notre association, quand nous étions en réunion. Citez-moi au moins deux députés européens de la région, de la grande région, puisqu'elle va depuis ici jusqu'à l'Atlantique. Eh bien, on m'en cite de temps en temps, il y en a quelques-uns qui connaissent un député, mais personne ne connaît la totalité des députés, donc par affinité politique ou pas. Donc ici, à part donc, cette députée que j'ai vue une ou deux fois ici dans la région de Montpellier et à côté, c'est Virginie Rosière, pour ne pas la nommer, eh bien, pour les autres, franchement, je ne les ai pas vus souvent. Et c'est elle qui nous a fait faux bond, dommage, lundi dernier.
Nous recevons régulièrement les jeunes européens de Montpellier à la radio qui viennent évoquer leurs activités, leurs actions en tant que jeunes européens. Est-ce que vous avez des relations avec cette jeunesse française qui s'intéresse à l'Europe à son tour?
Oui, c'est une bonne question d'ailleurs. Quelque chose qui fonctionne bien et la satisfaction des étudiants, c'est le système Erasmus. Ça, j'entends toujours dire que c'est bien, que ça fait des échanges donc, de pays à pays, et réciproquement, donc, en ce qui concerne les étudiants d'ici. Et ce problème est souvent plutôt géré par la Maison de l'Europe, avec qui nous avons de bonnes relations. Nous en avions plus il y a quelque temps que maintenant. Mais en tout cas, j'ai connu Gérard Rousset, qui était le directeur à l'époque, et qui est maintenant donc, en retraite. Et il y a Anthony, donc aujourd'hui, qui est le directeur de la Maison de retraite. J'ai connu Jean-Claude Gégaud, qui venait assez souvent nous donner un petit coup de main, d'ailleurs, sur des thèmes particulier de l'association, il est venu à la Grande Motte, comme Gérard Rousset, et c'est plutôt la Maison de l'Europe à Montpellier qui s'occupe donc de renseigner les étudiants et de les un petit peu les guider et diriger dans ce domaine de la jeunesse et de la relation avec l'Europe, qui fonctionne, il paraît, assez bien, d'après ce que j'entends dire, par des étudiants, par des jeunes, parce qu'on en a quand même soit les enfants de nos membres à nous, soit qu'ils viennent de temps en temps, soit ailleurs, on les rencontre ici ou là. C'est assez rare, mais enfin, Ça existe, ce genre de relation, bien sûr. Il faut bien remarquer et reconnaître que les membres réguliers du cercle européen sont plutôt un peu plus âgés que ça, et ça va plutôt à partir de 30-35 ans qu'un petit peu en dessous. Mais ça va aussi jusqu'à des très anciens qui sont fidèles depuis plus de 15 ans, donc des fidèles de notre cercle européen.
Donc les prochains rendez-vous, Jean Morellon, du cercle européen, vont concerner l'OTAN. C'est un aspect de la question qui vous intéresse en premier lieu.
Oui, ça sera le thème de la première réunion du mois de janvier d'ailleurs, c'est-à-dire l'Europe de la défense, où est-ce qu'on en est, et vis-à-vis de l'OTAN également, quelle est l'incidence, surtout avec d'une part le Brexit et d'autre part le nouveau président de la République aux États-Unis. Alors, certains disent que ça va être très bien pour la défense européenne et c'est le moment de se ressaisir, car le nouveau président américain a décidé que finalement il fallait faire des économies et que si on avait besoin de l'OTAN, il va falloir payer les services de protection de l'OTAN. Donc aujourd'hui, pourquoi pas, mais ça va redistribuer un peu les cartes et d'aucuns pensent que c'est le moment de reparler de la défense européenne, de mieux la mettre en évidence par rapport à l'OTAN, toujours un parapluie intéressant mais qui a un petit peu dévié de sa route tracée à l'origine en fonction effectivement de la chute du mur de Berlin. Mais donc ce n'est pas innocent et ça permettrait de mieux peut-être mutualiser les dépenses en matière de défense et notamment de la France vis-à-vis de ses dépenses pour lutter en ce moment contre tel ou tel ennemi qu'on n'ose pas nommer, bien entendu, comme d'habitude. On est en guerre, on nous l'affirme, on nous l'a dit solennellement, mais on ne voit rien de très définitif dans cette lutte, soi-disant. Si on est en guerre, ça devrait se voir. Et malheureusement, on ne voit pas grand-chose. Alors, il faut donc trancher un de ces jours dans ce domaine. En plus, on pleure et la Cour des comptes vient de tirer la sonnette d'alarme en disant « Attention, l'armée française est au bout, à bout du rouleau, on dépense beaucoup et ça ne peut pas durer comme ça éternellement. La Cour des comptes donc a dit « Mais attention, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, 9 théâtres d'opérations avec 25 opérations en cours. » Plus le plan Sentinelle, il faut quand même regarder ça d'un petit peu plus près et essayer de ne pas faire seul ce que nous pourrions faire avec 27 membres qui devraient être un peu plus impliqués dans cette affaire européenne si toutefois nous avions une Europe de la défense un petit peu plus, disons, programmée ayant résolu la question de la participation de chacun. Chaque membre, donc évidemment, a son mot à dire. Et pour l'instant, pour les pays nouvellement rentrés à l'Est, principalement, l'OTAN était tout à fait satisfaisante puisqu'ils s'occupaient d'eux très vite, avec ce fameux parapluie qui nous a bloqués, encore une fois, je reviens là-dessus. Et donc, l'OTAN, peut-être qu'avec le nouveau président américain et la sortie de l'Angleterre, qui avait des moyens militaires importants et comparables aux nôtres, eh bien, peut-être qu'on va pouvoir parler à nouveau d'une Europe de la défense. Et cela, un jour, quelqu'un qui vient de déclarer sa candidature à la présidence était venu à Saint-Just et je lui avais posé la question, comment faire pour renforcer un peu la cohésion de l'Europe et surtout l'harmonisation fiscale et sociale. Tout de go, il m'avait répondu, il faut une Europe à deux vitesses, c'est-à-dire ceux qui veulent vraiment avancer, aller un peu plus loin, un petit nombre, plus ou moins réduit, c'est les volontaires, et les autres pourront toujours rejoindre après, mais je pense qu'aujourd'hui, d'autres se sont penchés sur la question, et Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, d'ailleurs, lui-même, a dit qu'il nous faudrait repenser d'une part Schengen, et surtout aller vers un peu plus d'intégration en faisant participer ceux qui le veulent, donc des volontaires, autrement dit, toujours cette idée d'Europe à deux vitesses, je dirais, pourquoi pas, c'est une très bonne idée et nous y pensons et nous en parlons régulièrement dans le cadre du cercle européen. Alors donc, voilà des pistes intéressantes qui pourraient être largement suivies donc dans l'avenir très proche.
Pour conclure, Jean Morellon, que souhaitez-vous ajouter ?
Bien, en conclusion, je dirais que pour en finir avec ces images plutôt négatives que nous portons aujourd'hui, il faudrait pour avancer donc effectivement réfléchir à la question, donc repenser l'Europe, puisque aujourd'hui nous légiférons surtout dans l'émotion et jamais dans l'action, et le plus souvent tout seul. Donc dans les temps présents, ne rien faire serait bien pire que tenter de relancer donc l'Union européenne. Comme toujours en France, aujourd'hui nous ne voyons aucun vent nouveau souffler. Et donc, il nous faudrait aller un petit peu de l'avant dans ce genre-là. Nos grands anciens ont su faire passer un message d'espoir et de paix. Aujourd'hui, aucune étoile ne brille pour garder l'Union européenne sur des rails propres à nous faire entrevoir un avenir meilleur. À l'aube de 2017, je forme des vœux pour qu'un leader inspiré ose penser le futur, que ce soit au niveau de la France ou au niveau de l'Europe. Je vous remercie.
Merci Jean Morellon pour le Cercle européen.